Radio Okapi.
Les informations, Blaise Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Voici d'abord les titres de ce journal. Les députés de l'opposition ont boycotté les travaux consacrés à l'examen de la proposition de la loi relative au référendum examiné hier au Palais du Peuple. Malgré ce retrait, les députés de la majorité ont poursuivi la séance et ont approuvé sous réserve d'amendement les conclusions du rapport de la commission PAJ. Lutte contre les virus d'Ebola. L'imam du Maniema a appelé tous les musulmans à continuer de prier pour le pays tout en observant scrupuleusement les mesures barrières pour faire face à cette maladie meurtrière. Un autre appel, lui, provient de l'Ituri où l'Église du Christ au Congo s'engage à faire appliquer les mesures barrières pendant les cultes et activités pastorales. Véron Mosengo Omba a été élu le mercredi 20 mai 2026 président du nouveau comité exécutif de la FECOFA. À peine élu, il a promis une réforme en profondeur pour relancer un secteur fragilisé par des crises récurrentes de gouvernance. Dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi, les intervenants ont analysé les défis qui attendent le nouveau comité exécutif de la Fédération Congolaise de Football Association. Encore une fois, bonjour à tous. Nous commençons ce journal avec cette position de l'opposition ensemble à l'Assemblée nationale ici à Kinshasa. Ce groupe parlementaire de l'opposition dit non à toute démarche visant à changer la constitution. Elle s'exprime au moment où la majorité au pouvoir poursuivait l'examen de la proposition de loi sur l'organisation du référendum. Un seul groupe de l'opposition à l'Assemblée nationale a donc annoncé la suspension de sa participation aux travaux liés à ces textes. Dans une déclaration politique faite hier mercredi à Kinshasa, ces députés dénoncent ce qu'ils considèrent comme une démarche visant à changer la constitution en violation de celle-ci dans un contexte marqué par l'insécurité persistante dans l'est du pays, ont-ils déclaré. Ces élus interpellent également le président de la République sur cette initiative qu'ils jugent dangereuse pour l'unité nationale. On écoute Christian Mwando, président du groupe parlementaire Ensemble, dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Entendu qu'une grande partie de notre pays est occupée par les rebelles, l'armée rwandaise et des terroristes ADF, ayant causé des millions de morts, des réfugiés et déplacés de guerre au nord, sud Kivu, en Ituri et dans le haut Ouélé, vu que deux provinces de notre pays, le nord Kivu et l'Ituri, sont sous état de siège, attendu que l'objectif final de cette démarche est de changer le nombre et la durée des mandats du président de la République, ainsi que de réduire les compétences constitutionnelles des provinces afin de consacrer la dictature, considérant que les attentes de nos populations sont l'intégrité du territoire, la paix, l'unité nationale et la marche vers le développement. Considérant que le changement de la constitution, du reste interdit, dont la proposition de loi sur le référendum sous examen n'est qu'une étape préliminaire et suicidaire pour l'unité du pays. Le groupe parlementaire Ensemble, en sa qualité d'opposition institutionnelle, demande au président de la République, garant de la constitution, d'arrêter ces initiatives qui tendent à légitimer la rébellion dans la partie est de notre pays.
Malgré le boycott de la plénière par les députés de l'opposition qui ont quitté l'hémicycle, l'Assemblée nationale a poursuivi ce mercredi l'examen de la proposition de loi sur l'organisation du référendum en RDC. Les députés de la majorité ont approuvé sous réserve d'amendement les conclusions du rapport de la commission politique administrative et juridique, la PAJ, chargée d'examiner ces textes en profondeur. Porté par les députés Paul Gaspard Ngondankoy, élu de Yaouma dans la province de la Tchopo, cette réforme entend redéfinir le cadre juridique du référendum en RDC, ses conditions d'organisation, mais aussi le rôle des institutions dans ce processus. Le texte vise à remplacer la loi de 2005 sur les référendums jugés aujourd'hui dépassés afin de mieux encadrer l'organisation des consultations référendaires en RDC. Les détails avec Grace Amzati, notre permanent au Parlement.
Déclarée recevable le 30 avril dernier, cette proposition de loi vient de franchir une nouvelle étape. Selon le texte, la décision de convoquer un référendum revient exclusivement au président de la République par ordonnance présidentielle. Le scrutin est organisé par la commission électorale CENI conformément à la loi électorale. En cas de dysfonctionnement majeur des institutions, le chef de l'État peut également mettre en place une commission nationale multidisciplinaire chargée d'identifier les dispositions constitutionnelles jugées inadaptées. Si une majorité se prononce en faveur du changement des règles constitutionnelles proposées, le président de la République soumet alors un projet de loi de changement constitutionnel à l'Assemblée nationale et au Sénat, réunis en Assemblée constituante spécialement à cette fin. Le texte prévoit que le projet de changement de la Constitution doit être adopté à la majorité des 3/5 des membres de cette Assemblée constituante avant d'être soumis à la consultation populaire. En cas de rejet par le peuple, la Constitution en vigueur ne sera pas changée. Après l'adoption du rapport de la Commission PAJ, les députés disposent de 24 heures pour déposer leurs amendements. La commission, dirigée par les députés André Mbata, secrétaire permanent de l'Union Sacrée, dispose quant à elle de 48 heures supplémentaires pour les intégrer avant l'éventuelle adoption finale du texte.
Réagissant au retrait des députés du groupe parlementaire Ensemble pour la République de l'opposition des travaux sur cette proposition de loi relative au référendum, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, appelle au maintien de la sérénité au sein de l'hémicycle. Il indique que l'Assemblée nationale poursuit dans le calme sa mission de législation au service de la République. Aimé Boji souligne également que cette proposition de loi vise à doter les souverains primaires d'un cadre juridique clair, lui permettant de se prononcer démocratiquement sur les grandes questions engageant l'avenir de la nation. Parlons à présent Ebola avec cet appel des musulmans du Maniema ainsi que ceux du monde entier qui célébraient hier mercredi la fête des moutons ou Tabaski. Son imam a appelé tous les musulmans à continuer de prier pour le pays tout en observant scrupuleusement les mesures barrières pour faire face à cette maladie, sans oublier qu'il était aussi question pour ces musulmans de partager ensemble avec les vulnérables, les voisins, voire même la famille, le repas du jour en vue de célébrer cette fête. Écoutons plutôt l'imam urbain de la communauté musulmane du Maniema Komima, Cheikh Akanda Wamwini est au micro de Florence Kizalunga.
Nous venons de célébrer la fête des Tabaski aujourd'hui, la fête des moutons qui est la commémoration de l'acte de la foi posé par le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam qui a accepté de sacrifier son fils Ismaïl pour son Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Nous profitons de cette même occasion pour interpeller tous les musulmans en général et les non-musulmans sur l'observance des mesures barrières, l'observance des conseils des agents de la santé pour lutter contre l'épidémie à virus Ebola qui est une maladie meurtrière qui est presque dans nos portes de la province du Maniema. Au finish, nous interpellons tous les musulmans de continuer à prier pour la paix de notre pays. Bien évidemment, l'épidémie à virus Ebola que les autres considèrent comme une imagination, comme un mythe, c'est une réalité et que nous devons prendre à cœur cette maladie, nous devons prendre à cœur les mesures, en fait, les conseils des agents sanitaires, notamment les mesures barrières, la distanciation et pour lutter contre cette épidémie meurtrière.
Un autre appel, lui, provient de l'Ituri. C'est l'Église du Christ au Congo qui s'engage à faire appliquer les mesures barrières pendant les cultes et les activités pastorales. Son président provincial, Monseigneur Théodore Katembo, l'a dit hier mercredi dans une communication à la presse. Selon lui, deux points de lavage des mains sont disponibilisés devant le lieu des cultes. La distanciation sociale devra désormais être respectée. Il ajoute que les pasteurs sont instruits de ne pas poser les mains sur les têtes des fidèles pendant cette période de crise sanitaire. C'est de cette façon que nous allons vaincre cette maladie, affirme Monseigneur Théodore Katembo. Il est dans cet extrait choisi par Martial Kizabiamongo.
Nous avons fait des communiqués radio. Nous avons dit que à l'église, on doit trouver des points de lavage de mains au savon et bien des gels hydroalcooliques pour désinfecter les mains. Nous avons découragé les systèmes de prière avec imposition des mains, puisque quand vous imposez les mains, sachez très bien que vous allez quitter avec ces sueurs entre vos mains. Comme ça, nous avons découragé ça. Nous avions parlé à ce que qui est aussi une bonne distribution sécurisée de la Sainte-Seine. Il y a des communautés qui font circuler et chacun met sa main pour prendre. Nous avons dit qu'il faut quand même décourager ça pendant cette période ici. C'est dans ce cadre-là que nous avons aussi essayé de voir comment est-ce que l'Église doit se protéger pendant les cultes. Et nous avons pensé aussi à ce que nous puissions avoir même la formation de ceux-là qui accueillent des protocoles.
Encore une alerte, elle émane du patron de l'OMS pour lutter contre les virus à maladie d'Ebola. Il appelle toutes les parties en guerre dans l'est de la RDC à accepter un cessez-le-feu. Objectif, évidemment, faciliter la riposte contre cette maladie. Dr Tedros Adhanom a publié cette déclaration hier mercredi sur son compte X. Il estime que l'est de la RDC fait maintenant face à une collision catastrophique des maladies et un conflit avec l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Ituri dépassant la réponse. Plus de détails dans ces condensés dans l'un Irung rendu par Benjamin Mudumbi.
Les patrons de l'OMS expliquent que les virus Ebola Bundibugyo n'a pas de vaccin ni des traitements approuvés. L'arrêt de cette transmission d'Ebola dépend entièrement de l'accès humanitaire. Pourtant, les affrontements en cours conduisent à des déplacements massifs, poussent les contacts exposés dans des camps surpeuplés et coupent les couloirs de confinement critiques. Les travailleurs de première ligne risquent tout, tandis que les attaques contre les établissements de santé rendent les suivis des cas et de leurs contacts presque impossible. Nous ne pouvons pas établir la confiance communautaire ou isoler les malades pendant que les bombes tombent, affirme Dr Tedros Adhanom. Nous exhortons toutes les parties en guerre à accepter un cessez-le-feu immédiat pour contenir cette épidémie, pour nous permettre un accès sûr et soutenu aux équipes médicales. Nous plaidons pour donner la priorité à la survie humaine avant tout le reste, conclut le numéro 1 de l'OMS.
Entre-temps, le gouvernement canadien vient de frapper dur. Pas de ressortissants de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan du Sud sur son sol, au moins pendant les 90 prochains jours. Il a annoncé cette série de mesures restrictives visant les ressortissants de ces trois pays africains hier mercredi. Dans un communiqué consulté par Radio Kapi, le gouvernement canadien indique avoir décidé de suspendre pour une durée de 90 jours les documents d'immigration délivrés aux résidents des pays jugés à risque élevé ou très élevé d'éclosion. Cette mesure est entrée en vigueur depuis hier mercredi 27 mai. Des détails avec Jean-Désiré Kanyama.
Ottawa justifie cette approche de précaution par la gravité de la maladie et par le contexte international marqué par le démarrage imminent du mondial de football. En clair, les détenteurs d'un visa de résident temporaire, d'une autorisation de voyage électronique ou d'un visa de résident permanent déjà approuvé ne pourront pas se rendre au Canada. Aussi, le traitement des nouvelles demandes émanant des résidents de ces trois pays est gelé sous la même période. À ces restrictions s'ajoute un volet sanitaire. Du 30 mai au 29 août 2026, les citoyens canadiens, les résidents permanents ainsi que les ressortissants étrangers ayant séjourné dans les zones à risque au cours de 21 derniers jours seront soumis à une quarantaine de 21 jours, cela même en l'absence de symptômes. Par ailleurs, les autorités fédérales précisent qu'elles continueront de suivre l'évolution de la situation épidémiologique au Canada comme à l'étranger et ajusteront les dispositifs en conséquence. Elle rappelle que les mesures frontalières sont susceptibles d'évoluer à tout moment et invite les voyageurs à consulter le site voyage.gc.ca avant tout déplacement.
Par ailleurs, le gouvernement canadien souligne toutefois que le risque pour la population canadienne reste faible. Aucun cas importé d'Ebola n'a jamais été enregistré au Canada et aucun cas n'est actuellement recensé en Amérique du Nord. Parlons de ces gestes de cœur du programme d'accès aux services de l'eau et de l'assainissement en RDC vis-à-vis de plusieurs élèves du Kwilu. Il a en effet offert un important lot de serviettes hygiéniques réutilisables à 13 écoles de la ville de Bandundu. Au total, 3210 élèves filles âgées de 9 à 14 ans bénéficient de cette assistance destinée à promouvoir l'hygiène menstruelle en milieu scolaire et à favoriser le maintien des jeunes filles à l'école. Selon les coordonnateurs AI de l'unité provinciale d'exécution du projet, Neftali Makola, cette initiative vise principalement à réduire l'absentéisme scolaire des filles pendant la période menstruelle. Il a également indiqué que ce projet entend lutter contre les préjugés et les stigmates liés aux menstruations en sensibilisant aussi bien les filles
que les garçons, les parents ont à leur tour été appelés à s'approprier cette initiative afin d'accompagner les jeunes filles dans la gestion de leur hygiène menstruelle. D'autres précisions avec la sœur directrice Béatrice Mwangi. Ces propos sont recueillis par Jean-Claude Tangamou, notre correspondant de la radio communautaire de Bandundu.
On a un grand problème avec les menstrues des enfants. Quand elles viennent à l'école sans se préparer, quand elles viennent et puis elles demandent la permission pour rentrer. Mais je pense que ça c'est une solution parce qu'à partir de la maison, l'enfant s'arrange pour venir à l'école. Il n'y aura pas d'incident pour peut-être indisposer les autres. Vous avez donné déjà une solution pour notre jeunesse du lycée Matondo. Je vous remercie beaucoup. Que ce ne soit pas la première ou la dernière fois, mais que vous revenez continuellement vers nous pour aider un peu notre jeunesse. Parce que c'est vraiment un grand problème. La solution est là.
Actualité internationale.
Au Sénégal, la crise politique au sommet de l'État a des répercussions financières. Les limogeages du Premier ministre Ousmane Sonko et l'absence d'un gouvernement ravivent la crainte des banques d'investissement d'un risque accru des défauts de paiement de sa dette extérieure. Un contexte qui met sous pression Bassirou Diomaye Faye alors que les consultations se poursuivent depuis la nomination d'Amadou Aminou Lo lundi pour former rapidement un nouveau gouvernement.
L'invité.
Véron Monsengo Omba a été élu président du nouveau comité exécutif de la FECOFA le mercredi 20 mai 2026. Après son élection, il a promis une réforme profonde destinée à relancer un secteur fragilisé par des crises récurrentes de gouvernance. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi ont réfléchi sur les défis auxquels pourrait être confronté l'actuel comité exécutif de la FECOFA. On les écoute au micro de Guimaté Tsongo.
José Dayoni, vous êtes vice-président de la Fédération Congolaise de Football, l'association FECOFA. Quand vous suivez, n'est-ce pas, ces reportages, vous comprenez, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à votre mandat. Mais à votre avis, quels pourraient être les défis auxquels vous pourriez, n'est-ce pas, être confronté pour répondre à ces attentes?
Je crois que nous nous sommes organisés pour pouvoir représenter un programme ambitieux. Et nous pouvons assurer à tous les amoureux du ballon que par rapport à ce programme, nous allons faire ce qu'il faut pour redorer l'image du football congolais.
Concrètement?
Concrètement, nous allons commencer par exemple pour le football de jeunes, restructurer le football de jeunes, organiser de meilleurs championnats, essayer de professionnaliser les clubs d'élite, essayer de faire également les infrastructures convenables pour la pratique du football, améliorer l'arbitrage en instaurant le système de recyclage permanent pour pouvoir mettre les arbitres à l'abri de toute tentative et de professionnaliser ce métier d'arbitrage.
Et cette question des financements du football ainsi que les sponsoring, comment peut-on relever ces défis pour une fédération dont l'image, n'est-ce pas, et la crédibilité posent problème aujourd'hui?
Vous savez, pour que nous puissions avoir des partenaires, parce qu'il y a des sponsors qui attendent, mais pour mieux le faire, il faudra que nous puissions montrer notre sérieux dans la pratique du football, mettre un peu des moyens et ensuite les sponsors pourront suivre pour nous permettre de mieux organiser le football dans notre pays.
La question des infrastructures est aussi un des défis quand on se rappelle qu'on avait dans ces pays misé beaucoup sur les stades municipaux. Où en est-on avec ces projets, monsieur José Dayoni?
Je crois que, comme vous le savez, le problème des infrastructures, c'est pas un problème qui regarde directement la Fédération Congolaise de Football. Nous allons nous retourner au niveau de la tutelle, c'est-à-dire au niveau du ministère des Sports, pour qu'ensemble nous puissions lui présenter des projets qu'il pourra réaliser pour pouvoir donner des infrastructures dans toutes les provinces, dans les 26 provinces, pourquoi pas dans les 145 territoires que regorge notre pays.
Merci Frédéric Kitenge Kikumba, vous êtes manager du tout-puissant Mazembe. Pour vous, quels sont les défis que l'actuel comité de la FECOFA devrait relever pour promouvoir le football congolais?
Bien, merci. Moi, je m'oppose déjà au vice-président José Dayoni. Je m'oppose déjà à lui, à ce qui concerne les sponsors. Non, monsieur le président, laissez les sponsors tranquilles. Ce n'est pas le moment d'aller, je m'excuse le terme, d'embêter qui que ce soit. Personne ne peut donner son argent dans le football congolais aujourd'hui. Vous allez jouer où, quand et comment? Comment vous allez programmer un match sur le stade de Kananga ou de Tchikapa, quel sponsor va vous sponsoriser ce match-là? Le plus gros défi, ce ne sont pas les moyens, c'est la volonté de bien gérer le football congolais. Parce que vous allez avoir tous les moyens possibles. Il y a un match qui oppose le club à Aigle du Congo, mais vous choisissez les arbitres qui vont vous donner un résultat déjà prévu à l'avance. Et jusqu'au moment où je vous parle, aucune sanction n'a été mise sur le théâtre que j'ai vu lors de ce match-là.
Merci Pierre-Célestin Kabana Monambouy, vous êtes analyste sportif et président de l'association des journalistes sportifs du Congo. Pour vous également, quels sont les défis auxquels devrait s'attendre l'actuel comité exécutif de la FECOFA?
Aussitôt élu, ce comité doit faire face à un défi de gouvernance. Moi, je retiens que la première gouvernance est d'ordre éthique. Le football congolais a besoin de refaire l'éthique morale avec le monde du sport, l'amitié qui doit être restaurée, l'égalité de chance pour les compétiteurs et la bonne gestion des finances. Les défis à relever également vis-à-vis du monde du sport, c'est d'abord vis-à-vis des athlètes, des compétiteurs. Quand pourra-t-on sortir du ghetto? Du football des masses vers le sport d'élite. Les états généraux du sport d'il y a 2-3 ans ont souligné ce fait qu'il faut sortir le football du ghetto. J'ai suivi religieusement le programme du président Mosengo, mais je n'ai pas décelé quelque part qu'à côté du programme, il y a un plan d'exécution pour 2-3-4 ans. Première année, on fera ceci. Deuxième année, on fera cela. Et en fin du mandat du comité actuel, on aura atteint cet tel objectif.
Fin de cette édition du journal coordonné et supervisé par Lévin Mbuinga Vubu et mise en onde par Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net.